Scusi chi è, ma come on IT, ma
aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Salut.
Bienvenue sur l'émission Les murs ont des oreilles, une émission anticarcérale contre tous les enfermements, tous les troisièmes mercredis du mois de 19h à 20h. Donc aujourd'hui, c'est l'émission du mercredi 18 septembre. Avant de commencer, de vous faire un petit résumé de ce qu'on va parler, je vais vous rappeler les contacts de l'émission. Donc vous pouvez nous écrire à Les murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422 38 018 Grenoble et par mail à lesmurs@riseup.net. Les murs tout attaché @riseup.net. Vous pouvez aussi visiter notre site où on compile les émissions qui sont déjà passées avec des informations carcérales. Ce site c'est les murs ont des oreilles tout attaché .noblogs.org. Donc aujourd'hui on va vous parler de plein de choses. On va d'abord commencer par vous donner des nouvelles de Christine dont on parle régulièrement à les murs ont des oreilles. Ensuite on va vous parler de ce qui s'est passé dans les tôles en France cet été, une série de mutineries. Ensuite, on enchaînera sur la nouvelle réforme pénale. On lira aussi un appel fait par une coordination de détenus italiens. On donnera aussi des nouvelles de Chloé. Et on terminera par une chronique littéraire avec la présentation de plusieurs brochures. Et quelques brèves, comme d'habitude. Et donc, le fil conducteur musical de cette émission, ça sera le reggaeton. On espère que vous kifferez. On peut compenser.
Et du coup, on va commencer par donner un peu des infos de Christine, avec d'abord, on va lire un appel, puisque du coup, elle va passer en procès le 19, donc le lendemain de l'émission. Et du coup, on va vous lire le texte d'appel à la soutenir pendant ce procès.
Le 19 septembre, Christine en procès pour ne pas avoir baissé la tête sous les coups des matons. Alors que les prisons ne cessent de se remplir et les taulards de s'entasser dans les cellules, près de 69 000 enfermés pour 57 000 places au 1er juillet 2013, les conditions de détention sont toujours plus dures et les raisons de se révolter toujours plus prégnantes. Si les résistances individuelles ne sont pas rares, ces derniers mois, des mutineries ont aussi éclaté dans différentes tôles, Bourg-en-Bresse, Blois, Châteaudun. Face à cela, la réponse des matons et de l'administration pénitentiaire reste toujours la même. Répression, humiliation, violence, isolement, transfert. Jeudi 19 septembre, à 13h30, Christine sera jugée par le tribunal d'Arras pour violence et menaces sur des matons de Bapaume. Incarcérée depuis novembre 2012, elle était au centre de détention de Bapaume d'avril à juillet 2013. Le 4 juillet, le tribunal d'Arras avait renvoyé l'audience au 19 septembre, demandant des éléments supplémentaires. Depuis lors, plus de 2 mois, Christine alterne quartier d'isolement et quartier disciplinaire. Fin juillet, elle est transférée à la maison d'arrêt de Lille-Séquedin, où la matonnerie conserve le même cap, maintenir Christine à l'écart des autres détenus. Les enfermeurs auraient-ils peur d'une contagion de la révolte? Fin mai, à Bapaume, Christine est envoyée au mitard après avoir refusé de signer les modalités d'un contrat de formation. Rapidement, la situation se corse avec les matons. Face aux provocations, violences et humiliations, elle ne se laisse pas faire. La tension monte et peine à redescendre. À chaque ouverture de porte, ils attendent Christine équipée de casques et de boucliers. Le 27 mai, elle passe au prétoire et prend 30 jours de mitard. Durant ces 30 jours, on lui refuse tout appel à son avocat. Elle ne verra un médecin que tardivement. Face à cela, ainsi qu'aux pressions et provocations quotidiennes des matons, Christine proteste par tous les moyens. Elle tombe bouchée, feu de poubelle, etc. Au retour des promenades, elle fait le forcing pour accéder à la cabine téléphonique, puis se débat pour ne pas être réintégrée en cellule. Dans les derniers jours de mitard, un des matons, Michael B., la prend au cou par une clé de bras, la circulation du sang coupée, elle perd connaissance et se réveille allongée dans sa cellule. Quelques jours plus tôt, ce même Michael B., et 2 de ses collègues portaient plainte contre Christine pour violence et menaces. Parce qu'en tôle, ne pas se laisser piétiner et tabasser signifie outrager, violenter et menacer la matonnerie, Christine passera en procès le 19 septembre pour essuyer 4 chefs d'inculpation. Refus de donner ses empreintes, digitales et photos, violence pour s'être battue sous les coups, menace pour avoir crié à un mastodonte qu'elle lui pèterait la gueule, dégradation pour avoir foutu le feu dans ses cellules et avoir gravé dans les murs de la cour, mur par mur, pierre par pierre, nous détruirons toutes les prisons.
Voilà, donc ça c'était un peu des infos pour le procès de Christine donc, qui va se tenir le 19 septembre. Et du coup, ce procès-là, donc, c'est pour des faits. Donc, elle est accusée par des matons de Bapaume. Il faut savoir que depuis ces faits-là, elle a été transférée à l'île Séquedin. Alors, pourquoi elle a été transférée ? Ben, tout simplement parce que, en solidarité avec sa voisine de Mitard, qui n'avait pas accès à un médecin, elle a refusé de remonter de promenade et elle s'est un peu pris la tête avec des matons en disant que c'était inadmissible que cette personne-là n'ait pas accès au médecin. Du coup, ben, visiblement, ça a suffisamment saoulé l'administration pénitentiaire de Bapaume pour qu'elle soit transférée à Séquedin. Et alors, il ne faut pas croire que ça va mieux pour elle là-bas, puisque du coup, depuis qu'elle est arrivée là-bas, il y a une note interne de la direction de la tôle qui interdit au personnel soignant de rencontrer Christine sans la présence des matons, donc ce qui est complètement au contraire, normalement, à ce qui est censé se passer quand on est médecin en tôle. Du coup, Christine, elle, par rapport à ça, elle n'est pas du tout d'accord, donc elle a eu différents gestes de révolte, elle a refusé de remonter de promenade, elle a incendié des poubelles, etc. Vu que ça ne marche pas, ensuite elle a entamé une grève de la faim et de la parole pendant plusieurs jours. Donc là, il y a eu quand même des gestes un peu de solidarité aussi à l'extérieur. Et du coup, au bout de 8 jours de grève de la faim, Christine a enfin obtenu satisfaction de ses revendications. Mais elle s'est quand même tapé 45 jours de mitard, donc c'est le maximum légal. À sa sortie du mitard, elle s'est retrouvée en quartier d'isolement pour seulement une semaine, puisque le 22 août, elle va être à nouveau placée au mitard pour avoir fait valser un vélo, puisqu'elle n'avait pas été autorisée à discuter avec sa voisine pendant l'heure de sport. Du coup, par colère, elle avait fait tomber un vélo qui était là. Et donc, elle est passée le 26 août en commission de discipline pour ça, parce qu'un des matons se serait blessé à ce moment-là. Et du coup, on sait comment les matons sont fragiles et comment ils ont tendance à porter plainte assez vite quand ils sont blessés. Voilà, donc ça, c'était un peu pour donner les infos de la situation de Christine, à laquelle on pense fort. C'est possible de lui écrire si vous avez envie. Alors, à l'adresse Christine Ribailly, R-I-B-A-I-2-L-Y, écrou 24-192, MAF, QD, BP 179, 59-482, Séquedin. Si vous voulez plus d'infos sur Christine, c'est aussi possible de nous envoyer un petit mail et on vous tiendra au courant.
Ok, maintenant moi je vais vous parler de une série de mutineries qui s'est passée dans les prisons françaises cet été. Du coup, ça n'a pas été calme du tout dans les prisons cet été en France, parce que bah, en général, l'été comme Noël, c'est un moment où l'isolement il se ressent particulièrement dans les tôles, et c'est du coup des moments où les tensions peuvent vite éclater en révolte et tout ça. Et du coup, il s'en est passé plusieurs cet été. D'abord, tout 1er août à la prison de Bourg-en-Bresse, entre 20 et 30 détenus se révoltent, se retranchent dans une aile du bâtiment et font pas mal de casses en détruisant du mobilier, des caméras de vidéosurveillance. Comme toujours dans ce cas-là, la paix fait appel aux ERIS. Du coup, c'est les super matons qui répriment ce genre de mouvement, qui sont spécialisés là-dedans. Dans les médias dominants, tout le monde s'accorde à dire que tout est parti d'une broutille, d'une embrouille à propos d'un refus de port de short pendant le sport. Sauf que deux semaines plus tard, des infos venant directement des prisonniers concernés rapportent une version tout à fait différente, qu'en fait cette broutille, elle est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui était déjà bien plein d'humiliations et des mesquineries quotidiennes de la part de la paix, du tribunal local, du juge d'application des peines et de la machinerie carcérale en général. Du coup, là, on va vous lire un petit texte qui a été écrit d'après des témoignages de détenus.
Précision sur la mutinerie au centre de détention de Bourg-en-Bresse. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que c'est parti. Des gouttes d'eau qui ont fait déborder les vases et un ras-le-bol général. Il y a un juge, le juge d'application des peines. Tout le monde s'en plaint depuis des mois. Le juge s'entourant. Il y a aussi des collègues, Mesdames Perrin et Bertetto. Ils n'accordent jamais ni aménagement de peine, ni conditionnel, ni permission de sortie. Il y a environ 2 mois, il y a une pétition signée par pas mal de détenus qui a été remise à la direction par rapport à ça. Il y a un détenu qui a pris la haine parce que ce jour-là, sa permission de sortie a été refusée, comme elles le sont régulièrement pour d'autres. Par exemple, il y a un détenu qui devait sortir dans un mois, et lors de sa dernière permission, il arrive en retard. L'administration pénitentiaire a décidé avec le juge, sans même le faire passer en commission disciplinaire, de retarder d'un mois supplémentaire sa date de sortie. Comme ça. Autre exemple, dans les journaux, ils ont parlé au printemps d'un prisonnier de Bourg qui a pris 6 mois ferme parce qu'il avait menacé de prendre en otage sa spip, Madame GBA Damassi, qui ne foutait rien et bloquait ses possibilités de sortie. Et les nerfs contre elle, il a menacé de la prendre en otage en demandant s'il fallait aller jusque-là pour qu'elle se bouge. Il est passé en jugement au tribunal et pour ça, il a pris 6 mois supplémentaires. Bref, plein de gens sont remontés contre les services sociaux et les juges qui les laissent croupir ici à des moments où il y aurait des possibilités de sortie. Et ce jour-là, encore plus, il y a eu cette histoire. La surveillante monitrice de sport, une vraie teigne, elle se fait appeler Diams, son prénom c'est Marine. Elle cherche toujours les problèmes avec les détenus, personne ne peut la voir. Pourtant, elle s'est déjà fait éclater par un prisonnier là où elle était avant. Elle vient chercher des détenus pour partir au sport et refuse qu'on sorte avec nos shorts malgré la chaleur étouffante qu'il a fait. C'était la goutte de trop et ça a été le bordel dans l'étage. Il y a eu des graffitis et des tags sur les murs, avec le nom du juge et l'inscription « Itrière » à côté. Il y avait aussi le nom d'une surveillante. Des machines à laver ont été arrachées, ce qui a provoqué des inondations jusqu'à l'étage du dessous. Des caméras de vidéosurveillance ont été détruites, des lampes arrachées. Il y a eu pas mal de casses. Puis ils ont fait intervenir les ERIS. Il y a plusieurs personnes qui ont été mises au mitard, mais ils sont ressortis 2 jours après. 3 personnes qui ont été transférées. Là, ils n'ont toujours pas fini de tout réparer. On a entendu dire qu'il y avait eu un blocage en solidarité à la maison d'arrêt de la Talaudière. Ça fait plaisir. Détruisons toutes les prisons.
Du coup, avant de continuer à vous parler de ça, on va passer un petit morceau de musique.
Ouais, et alors vous allez sûrement reconnaître, donc c'est un morceau de reggaeton qui est en fait une reprise d'un morceau de Elvis Presley.
Empezó a tocar, tocar el reggaetón y todo se animó. Igual se paró y empezó a perrear reggaetón. Todo mundo a perrear. Todo mundo en la prisión.
loco.
Alors, je continue de vous parler des rébellions qu'il y a eu dans les prisons françaises cet été, ben, parce que ça fait toujours plaisir de parler de ce genre de choses qui rompt un peu avec la routine carcérale et qui montre que ben, les détenus se laissent pas toujours faire par la paix, loin de là. Et du coup, ces rébellions se sont concentrées pas mal à fin août, le lundi 19 août à Blois, dans le Loir-et-Cher, suite au constat d'un décès d'un de leurs co-détenus le matin à l'ouverture des cellules. C'est une soixantaine de prisonniers qui se sont révoltés en refusant de remonter de promenade, puis en détruisant une bonne partie du centre, faisant de gros dégâts. Visiblement, la paix avait fait la sourde oreille la veille au soir, quand le détenu s'était plaint d'un malaise et que ses voisins de cellule avaient crié toute la nuit en appelant les secours. Donc pareil, ben, répression par les ERIS avec des renforts venus d'Orléans, de Rennes et de Dijon pour mater la rébellion. Il y a un détenu qui a été blessé pendant cette mutinerie, mais on n'en sait pas plus pour l'instant sur son état. Et s'en est suivi plus de 80 transferts. Suite à ça, il y a la famille du détenu qui a porté plainte ce 4 septembre pour homicide involontaire, traitement inhumain et dégradant et non-assistance à personne en péril. Le lendemain, mardi 20 août, c'est à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire, qu'une vingtaine de prisonniers se sont rebellés. Le mouvement de rébellion s'est déclenché pour protester contre une énième sanction disciplinaire faite à un détenu. Ils ont tenté d'incendier le centre de contrôle informatique avant de monter sur les toits, d'où ils ont balancé des dalles et cassé des vitres. Il y a 5 personnes qui ont été placées en garde à vue suite à ça, et d'autres qui ont atterri au mitard. Donc il faut savoir quand même qu'il y a une bonne partie des détenus qui étaient à Blois, qui ont été transférés dans cette tôle-là. Et du coup, ça a permis aussi du coup ben de faire suivre les envies de révolte et tout ça. Et du coup, on imagine que c'est un des trucs qui a permis que ça se passe. Du coup, à Châteaudun, le relendemain, du coup le 21 août, c'est 36 prisonniers qui prennent d'assaut le chemin de ronde et qui, malgré la présence des ERIS qui sont restés sur place depuis la veille, il faudra 3 heures à coups de flashball, de balles de caoutchouc, de gaz lacrymo, de grenades de désencerclement pour étouffer le mouvement. Là, début septembre, il y a 6 détenus qui ont été condamnés pour cette mutinerie de 12 à 18 mois ferme au tribunal de Chartres. Ils ont été poursuivis pour dégradation et rébellion. Donc, comme pour la mutinerie de Bourg-en-Bresse et comme pour bien d'autres, la paix, le juge et les médias accordent leur discours, toujours plein de mépris pour minimiser les raisons du mouvement et le ramener à un simple besoin d'en découdre. Donc il y a même une de leurs avocates qui les traite de sans-cerveau, quoi. Du coup, c'est dire à quel point ils sont écoutés, quoi. Et pourtant, encore une fois, le peu de paroles qui transpercent dans ces médias montrent encore une fois qu'en fait, les raisons de se soulever, elles manquent pas et que les détenus, ils ont la rage contre la paix et ils ont bien raison. Du coup, là, je vais vous lire un petit extrait de ce qu'ils disent, quoi. On nous a refusé la promenade le matin. La moitié des détenus n'ont pas eu accès à leur cantine. On nous traite comme des chiens. Ils nous refusent la douche, la promenade dure 35 minutes au lieu d'une heure, on nous crache dessus. Ce n'est pas un centre de détention, c'est une maison d'arrêt. On est tout le temps enfermé, on nous refuse les permes, ce n'est pas une vie. Et du coup, bon, voilà, du coup, moi je trouve que c'est des raisons assez claires pour se rebeller, quoi. Pareil au procès, il y a quand même comme une surveillante qui en profite pour tenter d'arrondir ses freins de mois, ce qui comme ça arrive souvent, et qui réclame 5000 euros de dommages et intérêts, traumatisée parce qu'une pierre est passée tout près d'elle. On aimerait bien lui conseiller, comme d'habitude, de changer de métier si c'est vraiment trop traumatisant. Et pour cette mutinerie, il y a encore 9 détenus qui doivent passer en procès les 16 et 19 septembre. Du coup, on continue sur les rébellions dans les prisons françaises avec le 22 août, toujours la même semaine, cette fois dans un centre de rétention, le centre de rétention de Ménil-Amelot, où une intervention musclée des flics provoque la colère de l'ensemble des personnes enfermées qui se mettent à crier et à taper contre les grilles jusqu'à ce qu'un grillage cède. Les flics se déploient en nombre, armés de lacrymo et de matraques. Et dans l'après-midi, des départs de feu dans 2 cellules simultanément mettront encore plus la panique dans le rang des flics. Une personne est partie en garde à vue et on n'a pas plus d'infos là-dessus. Le même jour, c'est dans la tôle de Bois d'Arcy où 22 prisonniers se révoltent. Ils refusent de réintégrer leurs cellules et sont réprimés par les ERIS. Et on termine le mois d'août avec une belle évasion. Dans la nuit du 30 au 31 août, c'est 11 sans-papiers qui s'évadent du centre de rétention de Vincennes à l'aide d'une scie à métaux. Du coup, on leur souhaite bon courage et qu'ils courent encore longtemps. Et c'est toujours pas fini parce qu'en septembre, le 6, c'est au centre de rétention de Palaiseau, avec la même méthode de la scie à métaux, où trois retenus parviennent à s'évader. Malheureusement, il y en a un qui se fait mal en sautant et qui est rattrapé. Et voilà.
Eh ben, bravo ceux qui ont réussi à s'évader. On leur souhaite bon vent. C'est tout ce qu'on avait à dire sur...
Il y a la dernière info qu'on a, il y a aussi du coup le 16 septembre, il y a eu une prise d'otage à la prison de Clairvaux. Le seul truc qu'on sait, c'est deux détenus qui ont pris en otage un maton et on ne sait pas vraiment comment ça s'est terminé, on ne lui donne pas plus d'infos que ça. Dans l'autre truc aussi que je voulais dire par rapport à cet été, on va savoir si c'est lié ou pas, mais en tout cas début septembre, les matons en profitent pour lancer un mouvement de blocage. Pour protester contre la suppression des fouilles à corps systématiques à la sortie des parloirs.
Ça faisait longtemps.
Voilà, donc ça c'est de la revendication. Hein. Ils sont pas contents qu'on leur retire cet outil de répression. Du coup, il y a eu des mouvements à la prison des Croisettes dans la Sarthe, à la prison de Béziers, de Perpignan et de Cesse. Du coup, la prison de Cesse, on en avait parlé la dernière fois, c'est de là qu'un texte collectif de femmes détenues était sorti, dénonçant ce qu'elles subissaient de l'équipe des matones en place.
Ouais, voilà, du coup, il s'est passé plein de choses dans les tôles françaises cet été, des choses plutôt qui nous réjouissent, parce qu'en fait, ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu comme ça plein de mouvements collectifs dans plein de tôles différentes à des périodes rapprochées en France, et du coup, voilà, ça fait plaisir à entendre, et puis ça laisse peut-être apercevoir qu'on est moins dans des logiques de hyper individuelles où les gens juste... joue le canard, là, comme on dit, et laisse passer, et que peut-être il y a un espèce de réveil un peu de dire, non, en fait, là, c'est juste pas possible qu'on laisse passer la manière dont la paix nous traite, et sûrement c'est lié aussi avec, voilà, il y a plein de témoignages qui sont sortis des nouvelles tôles hyper modernes, et en fait, on se rend compte que ces nouvelles tôles hyper modernes, elles sont juste complètement insupportables, et du coup, ça fait péter des câbles à plein de gens.
Et il y a aussi, du coup, ce truc, j'ai l'impression, vachement plus de, après, de sortie de textes collectifs qui expliquent pourquoi ces révoltes elles ont lieu et que c'est pas des raisons anodines comme le laisse entendre la presse, la paix, les juges et tout ça qui se mettent tout le temps d'accord pour dire qu'en fait leur révolte elle est basée sur rien alors qu'en fait elle est basée sur tout et que à chaque fois ça rappelle à chaque fois en fait l'arbitraire de l'enfermement et pourquoi est-ce qu'ils ont la rage en fait.
Voilà, et du coup si vous avez plus d'infos sur des mouvements, sur ces mouvements-là, et ben surtout n'hésitez pas à nous les faire parvenir, puisque nous on est toujours, on a plutôt toujours envie de relayer les infos des détenus plutôt que de ce que dit la presse bourgeoise ou les matons. On va enchaîner du coup, puisque l'autre thématique un peu qui a fait l'actualité carcérale cet été, c'était le projet de réforme pénale de Taubira. On va s'arrêter un peu sur ce que prévoit ce projet. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ce qu'on avait déjà parlé dans l'émission il y a un an, où donc il y avait eu une circulaire de politique pénale qui était sortie en septembre 2012, qui insistait sur plusieurs objectifs, donc l'individualisation des peines, la limitation des peines planchers et la multiplication des peines alternatives à la prison. Donc ces trois éléments-là sont repris dans cette réforme. Mais du coup, avant c'était plus des principes, et là donc on peut en parler un peu concrètement de qu'est-ce qui est prévu. Alors bon, cette loi-là, elle ne prétend pas du tout répondre à ce qui se passe dans les prisons. On parle à aucun moment des conditions de vie en détention. On parle encore moins de supprimer les prisons, mais bon ça, il faut pas trop en demander non plus. Et la seule fois où on aborde la question des conditions de détention, c'est pour parler de surpopulation en prison. En fait, on parle de chiffres et non pas d'individus et de leurs conditions de vie. Donc l'objectif affiché de cette réforme, c'est de prévenir la récidive. Pourquoi ? Puisque c'est pas pour le bien-être des personnes concernées, mais c'est juste parce que le taux de récidive est considéré par les instituts internationaux comme un élément reflétant l'efficacité de la politique pénale de l'État. En gros, la France veut être bien notée sur les trucs de statistiques internationales, et c'est pour ça qu'il faut faire baisser la récidive. Et vu que, visiblement, les réformes de Sarkozy de mettre toujours plus de monde en prison pour toujours plus de motifs, ça marche pas, et ben du coup, on va essayer autre chose. La nouvelle méthode, elle est basée sur l'individualisation des peines et le contrôle de la réinsertion des détenus. Donc c'est ces deux aspects-là qui sont les deux aspects principaux de la réforme. Alors je vais les détailler l'un après l'autre. Pour ce qui est de l'individualisation des peines, donc il y a plusieurs dispositions qui sont mises en place. L'abolition des peines planchers, l'abandon de la révocation automatique du sursis en cas de nouvelle infraction, des aménagements de peine pour des condamnations inférieures à un an, et la création de la contrainte pénale. Donc l'idée, c'est de redonner les pleins pouvoirs au juge pour décider de l'avis des individus qui lui sont présentés, de la bouche même d'un juge, parmi les différents facteurs qu'il y a à prendre en compte. Donc il y a évidemment l'acte commis, donc le délit, mais pas seulement. Il y a aussi la personne qui l'a commis, son passé et ce que peut être son avenir. Donc là, le but, c'est vraiment, les juges, en fait, vont s'intéresser à la personnalité des personnes, à leur passé, à leur avenir, à ce qu'on pense qu'ils vont peut-être pouvoir faire, à quels sont leurs facteurs psychologiques ou sociaux, etc. Et donc, on imagine qu'il y aura force renfort d'expertise psychologique, d'enquête sociale, et du coup, de témoignages de toutes les personnalités, de toutes les administrations possibles qui vont parler à la place des personnes. Et du coup, la contrainte pénale, c'est vraiment la mise en lumière de cette logique-là. Puisque donc, c'est une nouvelle peine qui est prévue par la loi, qui est une peine privative de liberté, mais déconnectée de l'incarcération, à la différence par exemple du sursis avec mise à l'épreuve. Donc l'idée, c'est de donner au juge plein de moyens possibles pour priver une personne de ses libertés pendant 6 mois à 5 ans, mais sans l'emprisonner formellement. Donc par exemple, ça peut être du TIG, du travaux d'intérêt général, de l'obligation de filer de la thune aux victimes, une obligation de suivre des soins, une interdiction de se rendre dans des lieux ou de fréquenter des personnes, etc. Donc c'est pas vraiment de la nouveauté par rapport à ce qui existe déjà comme le sursis avec mise à l'épreuve ou le contrôle judiciaire, mais ça donne encore plus d'importance aux SPIP et aux juges, et ça écarte l'automatisme de la peine de prison, c'est-à-dire que là, si on respecte pas nos conditions de contrainte pénale, on va pas automatiquement en prison, mais on repasse devant un juge qui va à nouveau nous entendre et entendre tous les psychologues et les travailleurs sociaux et les machins pour décider de quelle est la peine la plus adaptée selon lui à la situation. Du coup, on imagine que ça va surcharger encore plus les tribunaux. Donc à la fois ça peut avoir des effets positifs puisque quand on est convoqué à un tribunal, des fois on est bien content que ça nous oublie et que ça prenne du temps. Et aussi ça a des aspects négatifs que du coup sûrement les juges ils vont vouloir juger le plus d'affaires possible, le plus rapidement possible et pas se prendre la tête à chercher effectivement la solution la mieux adaptée, mais juste suivre les conseils des SPIP et des psys et tout autre personnage malfaisant. Donc ça c'était le premier aspect de la loi et le deuxième aspect c'est la réinsertion des détenus. Alors là aussi, la réinsertion des détenus, ça peut paraître un joli mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire étendre le contrôle social de l'individu délinquant à tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire que c'est fini le temps où juste on purgeait notre peine et qu'on ressortait de prison et qu'on était libre. Maintenant, il n'y a plus de sortie sèche de prison. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faciliter la vie des personnes qui sortent de prison, par exemple, en leur donnant un logement ou un revenu. Non, le but, c'est d'effacer la différence entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire quand on sort maintenant, eh ben, on est toujours aux mains de l'administration pénale. Soit on est en semi-liberté, en bracelet électronique, en conditionnel, en placement extérieur, toujours sous le contrôle des SPIP et des JAP, donc juge d'application des peines. Du coup, alors c'est bien gentil de faire bénéficier les détenus à mi-peine pour les délinquants ou aux deux tiers des peines pour les criminels de ces réductions de peine, comme on dit, mais sauf qu'on sait très bien comment ça marche. En fait, dès qu'on a un incident en rétention, en fait, les exemptions de peine elles sautent, et dès qu'on a un incident à l'extérieur, en fait, on retourne en prison. Du coup, c'est pas vraiment ça qui va permettre de vider les prisons. Et donc, les deux logiques qui sont en œuvre dans ce projet de réforme pénale, c'est d'une part la surstigmatisation des individus délinquants. Donc là, l'idée, c'est de vraiment dire qu'en fait, une personne qui est délinquante, c'est lié à sa personnalité, à son vécu psychologique, et non, et du coup, on oublie toutes les analyses en termes de classe ou en termes de logique économique et sociale. Et du coup, c'est des individus qu'il faut soigner et dont il faut protéger la société. Ça, c'est la première logique. Et la deuxième logique, c'est la banalisation de ce qu'on appelle l'enfermement en milieu ouvert, donc c'est-à-dire la généralisation de la société de contraintes, où en fait la prison c'est plus un espace physique clos, mais c'est juste tous les aspects de notre vie qui sont désormais déterminés par l'État. Et donc ce magnifique dispositif qui est la contrainte pénale va a priori concerner 25 000 personnes, donc si on ajoute aux 70 000 détenus et aux milliers de personnes qui sont déjà sous bracelet électronique, contrôle judiciaire, semi-liberté, etc., ça commence à faire pas mal de monde.
Ça laisse présager que du bon. Moi maintenant je vais vous lire un appel qui a été lancé par la coordination des détenus italiens et qui appelle à 20 jours de solidarité avec leur lutte. Du coup à des moments je vais dire NDT, ça veut dire note du traducteur, pour préciser un petit peu des choses par rapport au contexte. Été 2013 dans les tôles en Italie. La coordination des détenus, née de manière spontanée la veille de la manifestation nationale anticarcérale, NDT, à Parme, le 25 mai 2013, veut porter en avant une mobilisation contre les conditions inhumaines et toutes les barbaries du système pénitentiaire italien. La date du 25 mai a été un épisode important pour nos luttes, à l'intérieur comme à l'extérieur de ces murs, et a amené une prise de conscience. Les nombreux témoignages de solidarité ont réchauffé nos cœurs et ont porté la nécessité de ne plus rester indifférents face à une situation intolérable pour laquelle des organisations internationales ont déjà condamné notre pays. En même temps que la grève de Parme, des détenus ont entrepris diverses formes de protestation comme la grève de la faim, le refus de consommer la nourriture distribuée par la prison, des pétitions, des batituras, du bruit répétitif sur les barreaux des cellules NDT, mais les difficultés de communication ont empêché une plus large adhésion. Ceci ne nous décourage pas. Au contraire, ça nous stimule à mieux faire et à s'y engager davantage, parce que nous savons aujourd'hui plus que jamais que seule la lutte paye. Nous avons décidé d'appeler à une mobilisation nationale pour le mois de septembre, qui commencera le 10 et finira le 30 septembre. Notre intention est de faire entendre notre voix et protester contre la situation explosive des prisons italiennes, avec une surpopulation intolérable, avec des détenus entassés dans des cellules infâmes, dans des conditions hygiéniques quotidiennes à la limite de la décence, dans lesquelles on subit la spéculation sur les prix des marchandises, l'exploitation véritable des détenus lavorenti, travailleurs, des traitements inhumains de toutes sortes, des abus en tout genre et beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. Nous devons aussi protester contre toutes les formes de torture légalisées que subissent les internés des régimes 41 bis et 14 bis, sorte de quartier haute sécurité ou quartier d'isolement, NDT, et de haute surveillance qui sont quotidiennement assassinés psychologiquement et physiquement. Nous demandons l'abolition de ces instruments dignes de la pire dictature et l'abolition de la loi Sinelli, réforme sécuritaire de 2012 de l'administration pénitentiaire, renforçant le pouvoir de celle-ci dans la pleine gestion de ce qu'il se déroule dans les prisons, NDT. Il est important de préciser qu'avec cette forme de protestation, nous ne demandons pas des réductions ou des aménagements de peine. S'ils arrivent, ils serviront à amoindrir la souffrance de quelques détenus et à faire éviter à l'Italie de payer les amendes salées de l'Union européenne. Nous demandons des interventions concrètes qui visent au respect des droits naturels de l'être humain et de l'article 27 de la Constitution. Responsabilité pénale du détenu, devoir de l'administration pénitentiaire, présomption d'innocence devant la justice et droits de l'homme en prison, abolition de la peine de mort, etc. Pour la réussite de cette mobilisation, nous invitons tous les frères détenus à adhérer à la grève, à s'engager du 10 au 18 septembre dans une grève de la faim et du 18 au 30 septembre à des formes de protestation qu'ils organiseront et retiendront les plus adéquates. En parallèle, nous appelons à tous les mouvements dehors, aux simples citoyens, aux familles de détenus, aux organisations, politiques ou non, d'être notre voix à l'extérieur de ces murs, de soutenir nos revendications, de créer un réseau solidaire, d'informer le plus de personnes possible, diffuser le plus possible ce communiqué et les informations relatives à la protestation, de décider des formes de lutte à l'extérieur des prisons et d'organiser une manifestation nationale. Le premier pas pour briser ces chaînes, c'est rompre le mur de l'indifférence. La solidarité est une arme, utilisons-la. Signé, la coordination des détenus.
Donc voilà pour cet appel à des actions autour de solidarité avec les détenus italiens. On va s'écouter un petit morceau de musique avant de continuer. Et donc c'est encore du reggaeton. Donc c'est un morceau d'un groupe de reggaeton colombien qui s'appelle Los Catedraticos, qui s'appelle Miedo Cabron et dont le clip a été tourné dans une prison vénézuélienne.